Sylvain Sipel, bonjour.
Bonjour.
L'État d'Israël contre les Juifs, c'est un titre provocant, mais vous dressez un tableau sombre de la démocratie israélienne. Vous décrivez une longue dérive d'un État israélien devenu ethniciste, belliciste, et c'est l'adoption en 2018 de la loi qui décrit donc Israël comme un État national du peuple juif qui a déclenché en fait l'écriture de ce livre.
En fait, ça s'est déclenché par une accumulation de toutes les évolutions dont je parle dans le livre, mais effectivement, c'est incarné par le vote de cette loi. Alors, le vote de cette loi, si vous voulez, j'invente rien, c'est le président de l'État d'Israël qui a dit que c'est une loi qui est mauvaise pour Israël et mauvaise pour les Juifs, et il vient du Likoud, c'est-à-dire de la droite traditionnelle israélienne. Mais pour la première fois, ce qui existait dans la réalité a été codifié dans le droit israélien, c'est-à-dire qu'Israël est un État dans lequel, pour dire les choses clairement, selon qu'ils sont juifs ou qu'ils ne le sont pas, c'est-à-dire qu'ils sont arabes, bien l'accès au droit n'est pas identique. On a des droits différents et supérieurs si on est juif, et donc ça, même si dans la réalité, sur le plan social, tout ça existe déjà, c'est-à-dire pour un arabe, accéder à la terre, accéder au logement, etc., c'était immensément plus difficile que pour un juif, et c'était même parfois interdit. C'est-à-dire qu'un arabe a un mal fou en Israël à pouvoir se loger dans une bourgade juive, par exemple. Mais ça n'était pas codifié dans le droit. Là, ça l'est. C'est une évolution radicale.
Vous parliez des Arabes israéliens, vous décrivez aussi la gestion par Israël des territoires palestiniens. Vous parlez d'une dérive violente, mais aussi banale et ordinaire.
Voilà, absolument. Si vous voulez, quand on lit la presse israélienne, c'est tout à fait sidérant. Il y a quasiment tous les jours un mort palestinien. Enfin, c'est un civil, je parle. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est pas tant cet aspect-là. Ce qui m'impressionne le plus, c'est l'encadrement. C'est marrant parce qu'à l'occasion du coronavirus, Netanyahou a fait passer un règlement qui permet aux Shin Bet d'user de ces instruments pour pister la population juive israélienne. Mais ces instruments, ils ont été mis en place pour pister, pour tracer totalement la vie des Palestiniens. Et cette vie-là est contrôlée chaque seconde, chaque pas, chaque démarche que fait un Palestinien. Et c'est ce contrôle de la vie des Palestiniens qui s'accompagne d'une expropriation permanente. On leur prend leur eau, on leur prend la terre de manière constante, permanente. Et c'est ça qui, à mon avis, est la chose la plus impressionnante. Et on le fait aujourd'hui, je dirais, avec beaucoup plus de bonne conscience que ça n'était le cas il y a encore 20 ans ou 30 ans. Il y a eu un basculement. Jusque-là, Israël vivait en grande partie dans le déni de la réalité de ce qui est fait aux Palestiniens. C'est-à-dire, historiquement, des générations d'Israéliens ont été éduquées dans l'idée que Israël n'a jamais expulsé un seul arabe. C'est ce qu'a dit Ben-Gurion, le fondateur de l'État. Et donc, ils sont partis volontairement. Bon, alors, on savait bien qu'en vérité, c'était peut-être pas aussi magnifique que décrit dans le récit national. Mais enfin, on l'avait pas fait. On n'avait pas expulsé les gens. Ils étaient partis d'eux-mêmes. Aujourd'hui, vous rencontrez en Israël, mais vraiment de manière massive, des gens qui vous disent « Non, mais bien sûr qu'on les a virés. » Et puis, en plus, la grande erreur de Ben-Gurion a été de ne pas les virer tous. Il fallait virer tout le monde.
Et de vous rapporter dans votre livre, les gens disent aussi. Et donc, la prochaine fois...
Oui, s'il y a une occasion, il ne faudra pas la rater. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement commun. Donc, de ce point de vue-là, ça indique un changement. C'est pas pareil de dire « on l'a pas fait » et de dire « non seulement on l'a fait, mais il faut refaire ». Parce que quand on dit « on l'a pas fait », c'est problématique, c'est un déni de réalité. Mais pourquoi dit-on « on l'a pas fait » ? Parce qu'on sait très bien que si on le reconnaissait, eh bien, ce serait reconnaître un crime. Alors que là, quand on dit « on l'a fait, il faut le refaire », c'est un rapport totalement différent. C'est-à-dire que c'est l'assomption du crime. Et c'est de ce point de vue-là, c'est un grand changement sur le plan de la société israélienne.
Et quand vous parliez tout à l'heure du contrôle quotidien des Palestiniens...
Oui, c'est essentiellement fondé sur la cybersurveillance. C'est une menace, évidemment, pour les droits démocratiques des Palestiniens sous occupation. C'est la matrice de l'occupation israélienne, la cybersurveillance aujourd'hui, pour les Palestiniens. Mais de plus en plus, c'est utilisé de manière non démocratique pour tracer, par exemple, les Juifs qui sont mal-pensants et qui sont toujours hostiles et opposés à l'occupation des Palestiniens. Et fort heureusement, il en reste. Il reste des gens absolument magnifiques, comme l'association de soldats Breaking the Silence. Bon.
Qui sont donc des militaires de réserve qui expliquent ce qui se passe sur le terrain.
Qui racontent ce qui se passe dans la réalité.
Ils étaient des héros il y a encore quelques années, et maintenant, cette association, c'est
un des héros. Ils ont été des héros quand ils se sont créés en 2004. En fait, ils ont été un temps utilisés par les pouvoirs publics pour dire, regardez quand même quelle merveilleuse démocratie nous sommes. Il y a même des gens qui ont le droit de s'exprimer et qui montrent toutes les bavures que commet l'armée. Mais dès qu'il y a eu la remise du premier rapport détaillé sur la guerre à Gaza, alors là, ça a été absolument terminé. Et aujourd'hui, ils sont pourchassés, ils ont une vie difficile, mais ce sont des gens magnifiques, hein. Ils font un travail absolument extraordinaire.
Parlons à présent de politique étrangère. Vous pointez dans votre livre le fait que les autorités israéliennes actuelles sont avant tout liées à des régimes autoritaires.
Oui.
Et qui, pour la plupart d'ailleurs, ont des discours antisémites.
Certains, pas tous,
pas
mais
tous.
Certains, oui.
Le ciment de ces alliances, c'est quoi à la base?
La question de l'islam est cardinale. L'idée de l'islamofascisme, etc., et l'idée que c'est une menace générale et que la détestation d'Israël, elle incarne la menace globale pour le monde entier. Alors cette idée-là est au cœur de l'alliance. Vous avez vu comment Trump a fait sa campagne pour se faire élire. C'est vrai de Bolsonaro, c'est évidemment vrai d'un Modi, par exemple, en Inde aujourd'hui, qui est devenu l'un des meilleurs amis politiques d'Israël. C'est vrai évidemment d'un Orban en Hongrie, etc., etc. Cette question de l'islam, donc de l'idée d'un conflit civilisationnel avec l'islam, dans lequel Israël représenterait la civilisation. Beaucoup de politiciens israéliens, le premier qui en a parlé a été Barak. Il parle d'Israël en disant « c'est une villa dans la jungle ». C'est-à-dire que la villa, c'est la civilisation, et autour, c'est un monde barbare, c'est une jungle. Et l'islam incarne cette jungle. Et donc ça, c'est un ciment très important avec les mouvances anti-migratoires, les mouvances anti-musulmanes dans le monde.
Je voudrais à présent que l'on s'attarde sur ce long chapitre de votre livre consacré au rapport
entretien. Il y en a même quasiment deux.
Ouais. La communauté juive de France et des États-Unis, oui, vis-à-vis d'Israël. Comment ces deux communautés, justement, se positionnent-elles?
Ça, c'est quelque chose, à mon avis, que le livre apporte vraiment, parce que c'est assez peu connu. En France, ce qui représente la communauté juive, ça s'appelle le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Le CRIF, aujourd'hui, ne représente pas le judaïsme français, en réalité, si vous voulez. Il représente les intérêts d'Israël. C'est un lobby. C'est un lobby pro-israélien. Son rôle, c'est la défense des intérêts d'Israël. Quel que soit le gouvernement, quelles que soient les attitudes, quelles que soient les situations, on défend Israël. C'est l'avocat d'Israël. Bon. Et donc, vous ne pouvez pas entendre une critique d'Israël. Aux États-Unis, vous avez deux types d'organisations. Il y a un lobby officiel, qui ne regroupe d'ailleurs pas que des juifs, il y a beaucoup d'évangélistes et d'autres.
Qui est donc l'EPAC.
Qui est donc le défenseur des intérêts israéliens, politiques. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle la Conference of Presidents, qui regroupe les présidents de toutes les grandes associations, qu'elles soient religieuses, laïques, etc., etc., mais qui forment ce qu'on appelle la communauté juive. Et le fait même que ce soit séparé change les choses. Par exemple, quand il y a le vote sur Israël, État-nation du peuple juif, il y a un débat immense aux États-Unis dans la communauté juive. Le président du Congrès juif mondial va dire que c'est une loi catastrophique. En France, vous n'avez rien, pas un mot dans la communauté juive française. C'est-à-dire que si on est contre, on est contre la communauté. Et ça, c'est un changement radical. Et d'ailleurs, une des conséquences, c'est que dans la communauté juive américaine aujourd'hui, se développe, ça prend différentes formes, il y a une distanciation progressive qui se fait par rapport à Israël, chez certains de manière radicale, mais ils sont assez minoritaires, mais enfin il y a par exemple BDS, hein, le mouvement de boycott d'Israël. Dans les campus américains, vous avez moitié des gens qui s'intéressent à la Palestine, qui sont souvent d'origine palestinienne, ou arabe, ou parfois musulmane, et de l'autre côté, ce sont des juifs américains. Ce sont des jeunes étudiants juifs américains.
Mais vous dites effectivement qu'il y a un rejet très visible chez les jeunes juifs américains vis-à-vis de la politique israélienne.
C'est-à-dire, plus on est jeune et plus effectivement le phénomène du rejet de la politique israélienne est important. Et aujourd'hui, vous avez d'un côté un rejet radical comme BDS, mais vous avez un phénomène beaucoup plus vaste encore qui est « j'en ai jusque-là, moi, d'Israël ». Ça ne me représente pas. Ce n'est pas ce que je suis. Et surtout par cet Israël-là. Je ne peux pas m'identifier à cet Israël-là. Israël qui est le meilleur ami de Trump, moi ça ne peut pas me convenir, parce que les juifs américains sont très globalement progressistes, quoi. Ils ont voté à 75% pour Obama, à 75% pour Hillary Clinton, et ils voteront pour Biden à 75%. C'est comme ça. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un fossé qui est en train de se créer, dont certains Américains et Israéliens pensent qu'il est en train de devenir irréversible. Il ne peut pas être comblé. Ça, c'est le phénomène qu'il n'y a pas en France.
Merci Sylvain Sipel.
Merci à vous.